RFI.
Et sur RFI, il est 19h30 ici à Paris et l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et quel est selon vous le premier risque sanitaire qui est considéré comme évitable dans l'Union européenne? Ce soir dans le débat du jour, nous parlons du tabac. À l'origine de 700 000 décès dans l'UE, 8 millions chaque année à l'échelle de la planète. Et dans ce contexte, eh bien, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, publie ce mercredi un rapport au vitriol. Sont montrés du doigt les industriels de plusieurs secteurs, tabac en tête, accusés de façonner des systèmes entiers dans leur seul intérêt, et cela au mépris des conséquences. Notre question ce soir, tabac, à qui profite le crime? Comment se traduit ce lobbying de l'industrie du tabac? Qui cela sert-il? Comment enrayer ce lobbying? Et puis derrière cela, eh bien, comment lutter efficacement contre le tabagisme? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Martin Drago, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable plaidoyer pour l'association ACT, Alliance contre le tabac, co-auteur d'une tribune dont on va parler, qui a été publiée la semaine dernière dans Le Monde, et dans laquelle vous dénoncez, je cite, « la perméabilité des institutions européennes à l'influence de l'industrie du tabac ». Vous êtes également juriste spécialiste du droit européen. Karine Gallopel-Morvan, bonsoir.
Bonsoir.
En ligne avec nous ce soir, experte des stratégies marketing et lobbying de l'industrie du tabac, professeure des universités à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, dans l'ouest de la France. Et notre troisième invité également en ligne, Luciano Ruggia, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne, directeur de l'Association suisse de prévention du tabagisme. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI, l'invitation du débat du jour. Alors, je vais commencer avec vous, Martin Drago, parce que j'ai donné quelques chiffres, deux chiffres, hein, les 700 000 décès par an dans l'Union européenne, 8 millions à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conséquences du tabac? Parce que les conséquences, elles ne sont pas que sanitaires.
Oui, exactement. Ce qu'on essaye de soulever aussi au niveau de l'Alliance contre le tabac et de plus en plus au niveau de toutes les associations de contrôle du tabac, c'est qu'effectivement, il y a un impact sanitaire énorme, gigantesque, qu'on connaît mais qu'on a presque tendance à être surpris quand on voit les chiffres que vous avez redonnés en début d'émission. Mais il y a aussi un énorme impact environnemental qu'on connaît peut-être un peu moins. On sait peut-être un peu moins, par exemple, que le mégot, c'est le deuxième déchet qu'on retrouve le plus sur les plages au niveau de l'Union européenne. C'est... au niveau de la déforestation, on dit que c'est responsable de 5% de la déforestation au niveau mondial. Et donc, il y a tout cet impact environnemental avec aussi les produits qu'on va utiliser pour la culture du tabac, le coût carbone du transport du tabac jusqu'en Europe. Et puis, le mégot, c'est un déchet plastique. Et ça, on ne le sait pas assez souvent. Hein. Et les microplastiques du mégot, finalement, vont se répandre et vont aussi polluer la terre, les sols, les mers, etc. Donc, c'est un impact qu'on sous-estime peut-être.
Mais les conséquences, elles sont d'abord sanitaires, évidemment. Est-ce qu'elles sont de plus en plus graves au niveau sanitaire, justement? Ces chiffres, est-ce qu'ils sont en hausse?
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez dit, 7 millions de morts par an au niveau mondial, avec 1 million aussi au niveau du tabagisme passif.
C'est pour ça que ça fait 8 millions
au total. C'est quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que le tabagisme passif est hyper important dans ce contexte sanitaire. Et on le verra, et j'imagine qu'on en discutera plus tard, ça nécessite une extension des lois, par exemple, des zones sans tabac. Qu'on a un petit peu en France, mais sur lequel on a du mal à avancer en Europe.
Et on arrive à savoir si c'est un chiffre en augmentation, les 7 millions de décès liés au tabac et le million lié au tabagisme passif, parce que pour le coup, on va en parler, mais il y a des politiques de lutte contre le tabac, notamment l'interdiction du tabac dans les lieux publics, donc on pourrait penser que normalement ces chiffres baissent.
Oui, c'est vrai que sur le long terme, j'aurais du mal à décider et à dire exactement le chiffre. Peut-être que Luciano ou Karine savent mieux que moi.
Luciano Ruggia, Karine Gallopel-Morvan, on en appelle à vous. Est-ce que vous savez si la courbe elle est ascendante?
Alors, ça dépend beaucoup des pays, en fait. Ouais. C'est très variable en fonction des pays. Globalement, dans les pays industrialisés, je mets la France un peu entre parenthèses, qu'on est un peu particulier, mais ça baisse. On a une baisse très forte du pourcentage de fumeurs. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, Australie, on est à des pourcentages de fumeurs autour de 10%, voire moins. Et par contre, dans les pays en voie de développement, peu protégés, où les lois sont passées mais pas respectées, là, ça augmente, en particulier sur les cibles vulnérables comme les enfants et comme les femmes. Qui sont des cibles importantes pour augmenter les parts de marché de l'industrie du tabac.
Ça baisse donc la consommation de tabac, mais pour autant, l'industrie du tabac, est-ce qu'elle s'enrichit de plus en plus? Je vous pose la question, Karine Galopel-Morvan.
Alors, ça commence à devenir compliqué, justement, parce que le pourcentage de fumeurs baisse dans les pays industrialisés et parce que l'OMS a proposé, il y a quelques années, une sorte, si vous voulez, de traité international de santé publique qui s'appelle la Convention cadre anti-tabac, qui propose, en fait, à tous les pays les mesures qu'il faut mettre en place pour baisser le pourcentage de fumeurs dans un pays. Et ça fonctionne, on le sait. Hein, ça fait maintenant plusieurs décennies que certains pays l'ont mise en place et ça fonctionne. Donc quand un pays décide de signer ce qu'on appelle signer et ratifier la convention cadre, il y en a plus de 160 aujourd'hui qui l'ont fait, et mettent en place les mesures proposées, eh bien en fait le pourcentage de fumeurs baisse, et ça c'est très très déstabilisant pour l'industrie du tabac qui commence à se rendre compte qu'elle est moins profitable qu'auparavant et qui devient du coup de plus en plus agressive en termes de stratégie de lobbying et de stratégie marketing, donc sur les pays qui n'ont pas encore beaucoup de lois, etc., et où les consommateurs ne sont pas tellement informés des méfaits du tabac. Et donc, sur les autres pays, développer un lobbying très fort qui passe par le développement d'informations fausses, le contact direct avec des élus, le fait de passer par des groupes de façade, comme en France, les buralistes, hein, pour faire le lobbying en lien avec l'industrie du tabac. Voilà. On a vraiment toute une panoplie de techniques très professionnelles qui se développent pour endiguer cette baisse de pourcentage de fumeurs dans le monde.
Il y a un chiffre qui est impressionnant, 20 millions d'euros dépensés en 2022 en lobbying par l'industrie du tabac auprès de la Commission européenne. C'est une récente analyse qui pointe ça. Donc, clairement, la convention cadre de lutte contre le tabac que vous évoquiez, elle ne permet pas d'enrayer cette marche en avant des industriels du tabac.
Oh, pas complètement, malheureusement, parce que l'industrie du tabac ne respecte pas toujours les conventions cadres ou les lois, etc. Et il y a encore des élus, hein, même en France, hein, qui sont en contact avec l'industrie du tabac, alors que normalement, la France, justement, est engagée dans ce traité. Il faut savoir que l'industrie du tabac a tellement d'argent qu'elle est capable d'employer les meilleurs lobbyistes du monde, qu'au niveau de Bruxelles, voilà, on est sur un système où voilà, il y a des échanges clairement entre les élus très réguliers. Le tabac est très fort sur ce genre de technique. C'est un peu la même chose au niveau de la Suisse. Notre collègue pourra peut-être en parler. Voilà. Et donc, ça fonctionne parce qu'il y a les mesures les plus efficaces. Hein. Par exemple, la hausse des prix forte et régulière, le paquet neutre ou autre, qui sont bloqués à cause de stratégies de lobbying très professionnelles de ces industriels.
Luciano Ruggia, effectivement, est-ce que vous pouvez nous faire une illustration suisse? Parce que ce que les auditeurs peut-être ne savent pas, c'est que la Suisse est considéré comme la lanterne rouge de l'Europe dans la lutte contre le tabagisme. Et je vais citer il y a un classement d'ailleurs qui paraît régulièrement concernant justement le niveau de lutte contre le tabagisme. Et la Suisse est considérée comme le pays, en tout cas l'un des pays où l'industrie du tabac a le plus d'influence sur la politique.
Oui, il y a seulement la République dominicaine où c'est encore pire que la Suisse.
Ouais, c'est ça. La Suisse est à l'avant-dernière place.
Oui. En Suisse, on a le 25% de la population qui fume. Donc, chez nous, ça ne baisse pas. Ouais. Les prix sont extrêmement faibles. La Suisse est un des rares pays européens qui n'a pas ratifié la convention cadre qu'on a mentionnée tout à l'heure. Et la Suisse est le siège de Philip Morris, de Japan Tobacco à Genève. C'est vraiment un centre du lobby international parce que beaucoup d'activités de lobby sont pilotées depuis les sièges de ces industries ici en Suisse. Donc les 20 millions dépensés pour le lobby au niveau européen, probablement c'est une estimation très faible de ce qui est dépensé en réalité par ces industries. Ici, chez nous, il y a Philip Morris a financé directement deux partis politiques lors des dernières élections fédérales. Ici, le lobby se fait pratiquement en pleine lumière, malheureusement. Mais la Suisse est aussi une plateforme au cœur de l'Europe pour tester des stratégies et affaiblir des mesures européennes. L'Union européenne a interdit le menthol dans les cigarettes, mais vous venez à Genève, à l'aéroport, vous avez des montagnes de cigarettes au menthol qui peuvent être tranquillement achetées et amenées en Europe. Il faudrait commencer par interdire ça.
Martin Drago, responsable de loyer pour l'association ACT Alliance contre le tabac, comment expliquer ce pouvoir des industriels du tabac? Ça sert des intérêts? Quels intérêts?
Bah, vous l'avez dit, hein, c'est le pouvoir, on peut l'expliquer par l'argent que ça rapporte. Hein. L'industrie du tabac aujourd'hui, même si dans quelques pays industrialisés, on a une baisse des consommateurs, c'est toujours plus de 50 milliards d'euros de bénéfices par an.
Donc c'est un marché économique pour les pays concernés.
Économique qui est gigantesque. Okay. Là, vous avez dit à 20 millions d'euros au niveau européen, c'est 200 personnes, 200 lobbyistes qui sont engagés au niveau européen près de la Commission européenne. Et en France, le budget, nous, on l'a calculé, c'est à peu près 1 million d'euros. Mais comme l'a dit M. Luciano Ruggia, c'est très en deçà parce qu'on se base que sur les chiffres publics qui sont déclarés au registre de transparence des lobbyistes que tout le monde peut accéder sur, auquel tout le monde peut accéder sur Internet. Mais en France, on sait qu'il y a une vingtaine de personnes. Ouais. Il faut voir que nous, au niveau français des associations de contre-lobby du tabac, au niveau du plaidoyer à faire public, hein, on va être 3-4. Donc, c'est-à-dire 3-4 pour contacter les parlementaires, essayer de les convaincre, etc.
Le lobby est beaucoup plus fort que les associations de lutte contre.
C'est x10, il y a 10 fois plus de personnes qui vont contacter les parlementaires.
Et comment ça se passe? Vous avez des exemples? Comment ça se passe, justement, ces personnes qui sont payées pour faire du lobbying en faveur de l'industrie du tabac? Qu'est-ce qui est dit? Qui?
Ouais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un peu une galaxie. Vous avez l'industrie, donc Philip Morris, par exemple, la plus grosse industrie, qui va soit faire envoyer des mails, essayer de contacter des parlementaires elle-même, mais qui elle-même va engager un cabinet de conseil, un cabinet de communication qui va aussi faire des affaires publiques. Et puis ensuite, vous allez avoir des associations professionnelles, l'association des fournisseurs de tabac à fumer, par exemple, qui elle-même va faire son propre lobby. Et puis ensuite, vous allez avoir, par exemple, elle fait partie aussi du MEDEF, donc le MEDEF va aussi faire une partie de son lobby qui peut intéresser aussi l'industrie du tabac. En France, vous avez les buralistes. Les buralistes, hein, c'est les seuls qui ont le droit de vendre du tabac, d'accord ? Ouais. Qui ont eux-mêmes une confédération, qui ont eux-mêmes leur cabinet de lobby. Et donc, vous avez une espèce de galaxie comme ça qui arrive à contacter les décideurs, les parlementaires, à envoyer des mails et à rabâcher des messages qui vont être quelquefois repris dans les médias et puis aussi près des décideurs. Nous, on voit des décideurs quelquefois qui vont dire « Ah, on a bien reçu votre mail, mais en fait, le mail de l'industrie, nous, on en a 20 par jour. Ouais. » Donc, en fait, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête.
Comment on peut expliquer, c'est une question naïve, hein, volontairement, comment expliquer que ce lobbying soit plus fort que les méfaits ou même le coût économique des méfaits sanitaires du tabac?
C'est ce qu'a dit un petit peu Karine au début, c'est aussi l'idée de la fausse information. Par exemple, un des gros outils de l'industrie du tabac et de ses alliés, ça va être de dire que si vous taxez les produits du tabac, ce qui est reconnu comme l'OMS, comme la meilleure manière de baisser la prévalence tabagique, l'industrie va dire si vous augmentez, ben en fait, ça va faire que du commerce illicite et ça va augmenter le trafic international, enfin le trafic illégal international. Et en fait, ces chiffres-là sont faux, on le sait, c'est calculé par l'industrie. Elle va vous dire qu'aujourd'hui, 50% par exemple des cigarettes sont vendues illégalement. Mais ces chiffres-là sont produits par l'industrie, mais répétés à longueur de journée dans tous les médias, par les buralistes, par l'industrie. Depuis de janvier à mars, ça a été impressionnant de voir tous les jours dans les médias, il y avait ces chiffres qui étaient repris. Donc c'est aussi cette force de frappe qui fait passer des fausses informations et qui vont finir par donner des fausses idées peut-être aux décideurs ou à la population.
Et c'est une forme de lobbying silencieux. Karine Gallopel-Morvan, comment on peut lutter, comment lutter contre ce lobbying? Puisque vous l'avez dit, il y a cette convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS. Et finalement, les pays échappent un petit peu déjà aux règles.
Comme le disait tout à l'heure Martin Drago, il faut plus de moyens. Comment on peut faire quand on est 3 ou 4 acteurs du plaidoyer versus 200 à Bruxelles, et beaucoup en France également, du côté de l'industrie du tabac. Donc il faut beaucoup plus de moyens, il faut former les acteurs de la santé publique et de la prévention à ces techniques. Force est de constater qu'en France, on n'est pas forcément très, très bon pour former les gens de la prévention à cette concurrence, hein, parce qu'il y a le tabac, mais il y a aussi l'alcool, etc. Et puis, il faut informer. Je crois qu'il faut informer et mettre en avant les fausses informations diffusées par l'industrie du tabac et les buralistes. Et puis également sensibiliser. Je me permets aussi une remarque sur les journalistes, parce qu'on a fait une étude, on a regardé un petit peu ce qui se passait dans la presse française sur 20 ans, hein, par rapport à cette thématique de la hausse des prix, qui est vraiment, encore une fois, un outil important pour lutter contre le tabac. Et finalement, on s'est rendu compte que dans la presse globale en France, quotidienne nationale, il y avait 65% de tous les arguments qui étaient diffusés par rapport à la hausse des prix, qui étaient en défaveur de la hausse des prix et qui émanaient des buralistes. Alors, je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des journalistes et des leaders d'opinion en général pour travailler sur ce lobby et faire comprendre que le lobby, ça passe aussi par une diffusion d'informations qui vont influencer les connaissances et les normes, et en particulier des élus qui ensuite vont voter.
Mais à la base, justement, de la part des élus, il y a une forme de laxisme. Quand Martin Drago évoquait l'enjeu économique du tabac, c'est un marché très important pour les pays concernés. C'est la raison du manque finalement de volonté.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. On a fait une étude là sur les élus par rapport à cette thématique du lobby et de la hausse des prix. Je pense que d'abord, il y a un certain nombre d'élus qui ne connaissent pas l'article 5.3, donc qui justement empêche l'industrie du tabac et ses alliés comme les buralistes de contacter les élus. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut vraiment informer aussi sur ce sujet. Et puis, il y a encore, en termes d'image, hein, un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour de l'industrie du tabac. Alors, pour la France, ça va être les buralistes, mais ça va être d'autres acteurs en France qui ont une bonne image parce qu'ils vont diffuser une image d'acteurs importants dans le monde rural, un acteur clé et pilier pour faire vivre les zones rurales en France. Et ça peut être des arguments qui peuvent toucher des certains élus. Et également, dans les arguments diffusés par les buralistes et les industriels du tabac pour lutter contre certaines mesures, il y a l'argument du vote, hein, de dire que voilà, les buralistes sont en contact avec des clients régulièrement et que s'il y a des mesures anti-tabac qui passent, eh bien, c'est les buralistes qui vont pouvoir en parler à leurs clients et donc les clients ne vont pas voter pour des élus. Enfin, il y a eu ces arguments-là qui ont été diffusés, hein, dans des arguments de lobbying.
Martin Drago, c'est vrai que le rôle des buralistes est important. Concrètement, ce sont eux qui vendent les paquets de cigarettes. Ils sont menacés dans la lutte contre le... Justement, si on veut réduire le rôle de l'industrie du tabac et si on veut tout simplement lutter plus efficacement contre le tabagisme.
Oui, c'est un vrai problème. Une vraie spécificité française, c'est que les buralistes, ils ont le monopole des ventes du tabac et ce monopole, il est confié par l'État. Et donc, techniquement, ils ont un lien administratif avec la direction des douanes et le ministère de l'économie. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, on va avoir un peu un côté bicéphale de l'État là-dessus, c'est qu'on va avoir le ministère de la Santé qui va prendre plein d'actions et souvent très bien, évidemment, pour lutter contre le tabagisme. Mais de l'autre côté, vous avez les buralistes, dont une partie du commerce encore énorme dépend de la vente du tabac, et qui sont liés aux douanes. Et donc ça, c'est un vrai problème, c'est qu'autant nous, on peut avoir des bonnes relations avec le ministère de la Santé, il y a une bonne transparence, surtout de la santé, hein, mais autant du côté des douanes, et de ce lien avec les buralistes, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, par exemple, on arrive très très rarement à voir les douanes pour leur dire « Est-ce que vous sanctionnez ces buralistes pour la vente aux mineurs ?» Parce que c'est un des vrais problèmes, c'est que les buralistes continuent, à près de deux tiers des buralistes continuent de vendre des cigarettes à des mineurs, c'est des études régulières et prouvées. Et donc on a effectivement ce vrai problème, et aujourd'hui, non, on sait que les buralistes, en fait, gagnent toujours énormément d'argent sur le tabac. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas parce que, normalement, l'État leur donne de l'argent pour faire de la transformation, c'est-à-dire faire autre chose, des colis postaux, d'autres activités sur lesquelles ils pourraient survivre. Mais on voit qu'ils continuent à dépendre, à vendre du tabac et donc à être un lobby de l'industrie du tabac.
Tabac, qui profite le crime? La question qu'on pose ce soir, 700 000 décès chaque année dans l'Union européenne, 8 millions à l'échelle de la planète. Et ce rapport qui est paru ce mercredi de l'OMS, il n'y a pas que le secteur du tabac alors, qui est pointé du doigt, hein, dans ce rapport. Mais en tout cas, c'est le secteur du tabac en tête qui est accusé de façonner des systèmes entiers dans un seul intérêt, le sien, et cela au mépris des conséquences. Et les conséquences sanitaires, on vient de les évoquer. Les conséquences écologiques, on les a également évoqué, mais l'enjeu économique, c'est ce que vous dites pour l'instant depuis le début de cette émission, et l'enjeu économique est au-dessus finalement des enjeux sanitaires et écologiques. Martin Drago, responsable plaidoyer pour l'association ACT Alliance contre le tabac, juriste spécialiste du droit européen. Karine Galopel-Morvan, experte des stratégies marketing et lobbying de l'industrie du tabac, professeure des universités à l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Et Luciano Ruggia, chercheur à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne, directeur de l'association suisse de prévention du tabagisme. Donc on a beaucoup évoqué le rôle des industriels du tabac et les difficultés pour lutter contre le pouvoir qu'ils ont, qui est très très important. Face à ça, Luciano Ruggia, pour finalement accélérer la lutte contre le tabagisme aujourd'hui, quelles seraient les priorités selon vous? Et c'est intéressant d'avoir votre œil suisse, puisqu'encore une fois, on a dit que la Suisse est considérée comme un très mauvais élève en Europe dans la lutte contre le tabagisme.
Il faut certainement beaucoup plus de transparence. De transparence sur le financement des partis politiques, des actions de lobby. Il faut imposer des lois qui augmentent la transparence. Nous, on vient d'avoir une loi qui...
La transparence, pardon, je vous coupe, mais transparence de quoi? Transparence des actions des industriels? Là, je voulais élargir aussi aux actions menées par les pouvoirs publics.
Absolument, transparence des actions des industriels s'ils ont des rencontres avec des membres de l'administration publique.
Ça renvoie à ce que nous disait Karine Galopel-Morvan, ouais.
Absolument. Je crois que la première chose, c'est la transparence. Puis il faut donner plus de moyens pour faire de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. En Suisse, on a un petit instrument, c'est un fonds de prévention contre le tabagisme. C'est une petite taxe qui est prélevée sur les paquets de cigarettes qui alimente ce fonds. Donc, ça donne des moyens aussi à des associations comme la nôtre de faire notre travail. Ça a été mentionné tout à l'heure, on est très peu et très petit face à la puissance économique de l'industrie du tabac. Il faut créer ce type de mécanisme-là pour nous aider à faire notre travail de transparence.
Après, Luciano Ruggia, depuis le début de ce débat, on parle beaucoup des industriels du tabac. Mais finalement, si les gens fument moins, si les gens fument plus, la question ne se posera pas. Est-ce qu'il faut d'abord agir sur le consommateur? Alors, par exemple, en continuant, là, ça c'est le credo de la France, d'augmenter sans cesse le prix du paquet de cigarettes, qui est autour de 11,50 euros aujourd'hui et qui a encore été augmenté au mois de février. Il y a un rapport sénatorial qui dit qu'il faut qu'il augmente de 5% jusqu'en 2040. On va finir à plus de 20 euros, c'est ce qui est prévu. Mm-hmm. Est-ce que ce sont les leviers importants d'agir directement sur les gens qui achètent du tabac?
Oui, il faut aussi faire ça. Il n'y a pas une seule politique, une seule mesure qui est efficace. Il faut augmenter les prix, mais de beaucoup, pour avoir un impact sur la consommation de la population. Il faut aider mieux et plus les gens qui veulent arrêter de fumer. Il faut faire de la prévention et pour cela, il faut des moyens. Mais il n'y a pas une mesure unique. Il faut tout l'ensemble de l'éventail des mesures.
Karine Galopel-Morvan?
Oui, en fait, ce que vous disiez par rapport à la hausse des prix en France et dans certains pays, elle n'est pas du tout suffisante. En fait, on sait très clairement aujourd'hui qu'il faut augmenter de plus de 10% et très régulièrement le prix du tabac. Je vous donne un exemple. En Australie, le prix du tabac d'un paquet de cigarettes, c'est à 25 euros. Et là, on voit bien que si on a ce mécanisme-là en France, on l'a eu dans les années 2015, 2016, etc., le prix du paquet a beaucoup augmenté. On a eu une baisse du pourcentage de fumeurs. C'est un outil qui est clé sur les jeunes en particulier, bon, sur la population globale, hein, mais sur les jeunes, ça baisse de 8% la consommation. Ouais. Après, l'autre...
Le danger, c'est pas le marché noir, ou alors d'aller se fournir dans les pays frontaliers. En Belgique, en Italie, en Espagne, le paquet est à 5 euros environ.
Alors, il faudrait une harmonisation européenne, déjà des prix, première chose. Et puis, on voit que, en fait, si vous prenez les chiffres officiels du trafic illicite en France, par exemple, c'est constant depuis plusieurs décennies. On est à peu près à 10-20%. Par contre, ce que va véhiculer comme information l'Institut du tabac et les buralistes, c'est qu'on est à 30 ou 40%. Et ça, ce sont des chiffres dont on n'a absolument aucune information sur la méthode et la manière de le calculer. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point aussi qui explique que on a du mal à faire reculer le tabac, c'est qu'on a des lois, mais elles ne sont pas respectées. Martin Drago évoquait tout à l'heure l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et c'est vrai qu'on est plutôt pas trop mal en France par rapport à d'autres pays. Alors, je ne parle pas forcément à l'intérieur, où globalement, ça commence à être respecté, mais à l'extérieur, par exemple, dans les parcs, sur les plages, dans les universités aussi. Hein, nous, à l'École des hautes études en santé publique, on est le premier campus sans tabac en France. En fait, on se rend compte que dans un certain nombre d'endroits, cette interdiction de fumer, elle n'est pas respectée. Et puis, par exemple, la vente de tabac aux mineurs est encore forte et majoritaire en France. Donc ça, si on ne respecte pas les lois, elles ne servent à rien.
Malgré tout, est-ce que les mentalités changent, Martin Drago? À qui profite le crime? C'est la question qu'on pose ce soir. Mais la question, est-ce qu'elle est aussi brûlante qu'il y a plusieurs dizaines d'années où on pouvait fumer globalement partout? On a fêté cette année les 20 ans de l'Irlande, qui a été le premier pays au monde à interdire la cigarette dans l'espace public. Et aujourd'hui, il y a des réflexes qui étaient là avant, qui ne sont plus là aujourd'hui concernant la pratique de la cigarette.
Ouais, alors, oui, elle est brûlante parce qu'on a quand même toujours 75 000 morts en France et 700 000. Donc ça, c'est sûr que ça restera brûlant. C'est la première cause de mortalité évitable. Ça l'est et c'est pour ça qu'il faut agir. Après, si on veut être un peu plus positif, on voit quand même que si aujourd'hui, par exemple, en France, on a 25% à peu près de prévalence tabagique, donc de gens qui fument tous les jours, chez les jeunes, ça baisse bien. Et donc là, pour revenir à vos propos, ce qu'on voit, c'est que quand même, tout ce qu'on met en marche, et dont parlaient M. Ruggia et Mme Galopel-Morvan, c'est que ces hausses des prix, le mois sans tabac, toutes ces idées-là commencent à marcher chez les jeunes.
Ouais, le mois sans tabac, c'est en novembre
exactement,
en France.
Ouais. Et donc ça commence petit à petit à avoir une dénormalisation du tabac. Hein. C'est un mot qu'on utilise un petit peu, c'est-à-dire de dénormaliser le fait de fumer. Et ça commence à gagner, ça baisse très très forte chez les jeunes et les adolescents.
Ouais.
Par contre, et c'est là où on a un problème, c'est que l'industrie du tabac, bah, elle n'est pas bête, on y revient un petit peu. Vous parliez du rapport de l'OMS aujourd'hui, il met la culpabilité sur l'industrie et pas sur les individus, ça je trouvais ça assez important, et il développe de nouveaux produits. Et donc on va avoir, vous aviez la vieille cigarette, aujourd'hui vous avez le tabac chauffé. Hein,
c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cigarettes électroniques.
Et vous avez évidemment les cigarettes électroniques, et vous avez aussi maintenant des poudres de nicotine que vous pouvez mettre en sachet dans les gencives, etc. Donc il y a une diversité de produits, un peu l'industrie essaye un peu de se revigorer avec ces nouveaux produits.
C'est tout aussi nocif ?
Alors, ça va être moins nocif, c'est vrai, pour les produits de la nicotine. C'est pas, en tout cas, on n'a pas le report nécessaire qu'on a eu pour le tabac, sachant qu'il faut à peu près 30-40 ans pour voir l'effet vraiment sur la santé de ces produits. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de se diversifier. Et on voit que ce lobby, en fait, il va empêcher l'Union européenne et la France de réguler ces nouveaux produits. Donc aujourd'hui, il y a la question de comment on régule la vape, comment on régule ces milliers d'arômes qu'il y a pour les cigarettes électroniques, qu'est-ce qu'on fait de ces sachets de nicotine, etc. etc.
Il faudrait interdire le tabac, selon vous ?
C'est quelque chose qui arrive dans plusieurs pays, ce qu'on parle de endgame un petit peu, c'est-à-dire de décommercialiser le tabac. C'est ce qui se fait au Royaume-Uni, ce qui va se faire peut-être au Royaume-Uni.
Construire des générations sans tabac.
Là, c'est plus précis, c'est-à-dire que vous relevez chaque année l'âge de majorité pour fumer.
Au Royaume-Uni, c'est après 2009, jeunes
qui seront nés après 18 ans,
voilà, ne pourront pas acheter de paquet de cigarettes.
Et ça, c'est une réflexion qui, quand on parlait, nous, il y a 2 ans, paraissait un peu folle à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, ça se normalise. En fait, de dire, mais pourquoi on continue à commercialiser ce produit qui tue un fumeur sur deux ?
Mais question d'ouverture, hein, parce qu'il nous reste quelques secondes, mais est-ce que ce n'est pas la liberté de chacun de prendre cette décision-là ? On n'a pas parlé d'alcool, mais ça peut être le parallèle.
Il n'y a pas de liberté dans l'addiction, c'est ça qu'il faut voir.
Ouais.
Et que du coup, en fait, ici, c'est surtout une industrie qui rend addict des gens et qui en tue un sur deux. Et donc, il n'y a pas de liberté. Et c'est tout, là, justement, tout le débat, c'est que on va avoir une industrie, des lobbies qui vont dire mais c'est votre liberté de fumer ou pas. Mais non, en fait, vous fumez parce que vous êtes addict. Et aujourd'hui, j'en suis sûr qu'on peut faire le test autour de nous. Tout le monde veut arrêter de fumer, en fait. Hein.
C'est et beaucoup arrêtent de fumer, essayent d'arrêter de fumer.
Évidemment, ouais.
Il y a un parallèle avec l'alcool ?
Oui, bien évidemment.
Même dans la gestion par les autorités publiques, j'entends.
Oui, alors si la lutte contre le lobby du tabac est compliquée, la lutte contre le lobby de l'alcool est encore plus complexe. Et évidemment, d'autres associations qui s'en occupent très bien, notamment Addiction France.
Karine Galopel-Morvan, le mot de la fin pour vous, il nous reste quelques secondes, je vous écoute.
Oui, vous disiez sur l'alcool, une très grande similitude entre le marketing et le lobbying des stratégies des alcooliers et des cigarettiers. Donc c'est intéressant de regarder les deux, ils fonctionnent vraiment de la même façon sur ce marketing et ce lobbying.
Bien, écoutez, merci beaucoup, mais je me doute qu'il y avait un parallèle à faire effectivement et d'en appeler aussi à la responsabilité de chacun. Mais évidemment, il y a ce lobbying des industriels du tabac qui, et vous l'avez dit, Martin Drago, ont toujours de nouvelles idées pour rendre un petit peu plus addicts les consommateurs. Merci beaucoup à vous trois. Martin Drago, responsable plaidoyer pour l'association ACT Alliance contre le tabac, juriste spécialiste de droit européen. Karine Galopel-Morvan, merci, experte des stratégies marketing et lobbying de l'industrie du tabac, professeure des universités à l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Et merci à Luciano Ruggia, chercheur à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne, directeur de l'association suisse de prévention du tabagisme. Merci beaucoup à Arnold Lassevoix, à la préparation de ce débat du jour, Diego Tenorio à sa réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. Allez, dans un peu moins de 2 minutes, ce sera Anne Corpé pour le journal. Puis le décryptage ce soir, Gaza, peut-on croire à une trêve ? Et juste après, eh bien, ce sera l'heure d'Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Au programme ce soir, Sylvie.
Alors nous parlerons du Burkina Faso, c'est la dernière illustration des séries d'arrestations arbitraires. Hein. L'oncle de Thomas Sankara, octogénaire, a été arrêté hier par les membres de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Des réactions, vous l'entendrez en RDC après l'investiture du gouvernement de la première ministre Judith Suminoa. Parmi ses chantiers prioritaires, la lutte contre la corruption, mais aussi la sécurité dans l'est du pays. Nous irons au Nigeria où ce 12 juin, jour de la démocratie, a été célébré sur fond de contestation sociale. Et puis, comment se porte le syndicalisme en Afrique ? Quel est le poids des syndicats ? Sont-ils entendus ? Afrique Soir s'est penché sur le rapport annuel de la Confédération syndicale internationale sur les droits des travailleurs. Et un chiffre seulement pour bien comprendre le problème, 93% des pays africains ont vu le droit de grève violé sur l'an passé. Enfin, le football, nous ferons un bilan d'étape après la fin de la quatrième journée des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde 2026.
Ah ben voilà, on a le programme. Merci beaucoup Sylvie Berruet, on vous retrouve dans 30 minutes et 30 secondes sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute dans 30 secondes, c'est le journal de 20h.